Sophro, le podcast pour vivre une vie plus vibrante et épanouie. Je suis Anne-Maëlle et j'accompagne mes clients à travers la sophrologie et le yoga pour les aider à se sentir mieux dans leur vie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle interview. J'ai la chance d'accueillir pour cet épisode 10 Dominique Aubert. La sophrologie peut s'appliquer dans bien des domaines. Et aujourd'hui, avec lui, c'est à celui du sport que nous nous intéressons. Dominique est kiné et sophrologue. Il a accompagné des sportifs dans leur préparation mentale notamment. Il est également formateur à l'ISR, l'Institut de sophrologie de Rennes, et faisait partie de l'équipe enseignante lorsque j'y ai étudié. J'adore son côté naturel et un peu fêlé. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment lui, vous allez l'entendre. Et cet échange a été d'une richesse vraiment incroyable. Tellement que j'ai préféré couper cet épisode en deux pour que cela soit plus digeste pour vous, auditeurs. La pratique sera pour la semaine prochaine, mais croyez-moi, il y a de quoi se nourrir dans cet épisode passionnant. Bonne écoute! Donc, bonjour Dominique et merci pour d'avoir accepté de participer au podcast.
Oui, ça fait plaisir.
Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour commencer, s'il te plaît?
Oui, je peux me présenter. Donc, je m'appelle Dominique Aubert. Alors, me présenter, alors, très vite fait, sur le plan civil, je vais avoir 68 ans cette année. Je suis marié, j'ai trois enfants, et quatre même avec celle de ma femme. Enfin bon, voilà, une situation. Bon, j'en dirai pas plus là-dessus. Je suis un peu professionnel et par rapport au sujet qui nous intéresse. J'étais kinésithérapeute, ma sœur kinésithérapeute, pendant 40 et quelques années, donc retraité maintenant, et puis je suis sophrologue, ça tombe bien quand même, et puis aussi préparateur mental auprès des sportifs, voilà, selon une progression dans le temps professionnelle qui m'amène aujourd'hui à participer à ton podcast. J'ai eu une activité aussi moindre maintenant, mais pendant une douzaine d'années avec mes collègues de l'Institut de sophrologie de Rennes, où j'ai fait ma formation, Pascal Gauthier et Nora Denis, où j'ai été plus ou moins responsable, administrateur, formateur à l'Institut de sophro de Rennes. Voilà pour cette présentation.
Super, merci. Et est-ce que tu peux nous dire comment la sophrologie est arrivée dans ta vie ?
Alors ça, c'est une question importante. C'est une question importante parce que je me la suis posée et non pas tout de suite. C'est ça qui est amusant. Et je pense que c'est une question absolument incontournable à se poser en tant que sophrologue. Pour ma part, c'est clair que c'est certainement pour des raisons personnelles, privées, que je me suis mis à la sophro, même si il y a eu en même temps une volonté professionnelle. Mais au niveau du moteur profond, intime, c'est certainement une volonté d'arranger, de changer, d'évoluer dans un aspect conjugal, tout simplement, une difficulté conjugale à cette époque-là, qui m'a fait rechercher des formations dans mon métier de kiné, complémentaires, un petit peu différentes, un peu alternatives. J'en avais entendu parler dans des formations de kiné du sport, par exemple. On parlait déjà un petit peu de sophrologie, c'était dans les fins des années 80. Donc il y a eu à la fois des éléments comme ça tout à fait professionnels, mais le moteur premier est certainement privé plutôt que professionnel. Mais les deux se sont recouverts, je dirais, et c'est difficile finalement de les détacher, parce que ça peut être très bien d'abord professionnel et déboucher ensuite sur une évolution personnelle, inévitable d'ailleurs et même nécessaire dans la pratique de notre... Donc c'est venu comme ça. Et puis après, c'est vrai que c'est vraiment dans le cadre... Alors sur le plan conjugal, ça a certainement fait évoluer des choses. J'en dirai pas plus, mais ça ne résout pas tout. Hein. Je veux dire, ça en attendait peut-être un petit peu trop. Et c'est pour ça que j'ai fait d'autres choses en même temps, qui m'ont beaucoup soutenu, comme une psychanalyse de 4 ans et demi qui m'a énormément apporté. En même temps que ma formation de sophro, il y a deux choses là, et je ne sais plus très bien dire quel parcours m'a plus influencé, je crois que c'est vraiment les deux. Les deux se sont réunis d'une façon très harmonieuse, ça c'est indiscutable. À la fois d'un côté une expérience à la fois, je veux dire, intellectuelle, et puis une expérience du corps sous un autre regard, dans un autre point de vue par la sophro. Et c'est vrai que sur un plan alors, professionnel kiné, l'apport de la sophro m'a été assez important, à la fois en pratique, hein, technique, en technologie, méthodologie de la kinésithérapie, mais aussi dans la façon, certainement, et encore plus peut-être, mais ça va avec, de la façon d'aborder le patient, de ne plus accueillir un genou, mais une personne qui a mal au genou. Mmh. Et c'est quand même un changement de point de vue assez radical par rapport à notre formation de kiné très mécanique, mécaniste. Et cette évolution est certainement la plus importante sur le plan professionnel, ça c'est clair.
Ok. Et du coup, voilà. Pour toi, la sophrologie, c'est quoi ?
Oh là, la question, c'est pas facile non plus. Comment veux-tu que je te réponde, en fait ? Ouais, c'est essentiel aussi. Je crois que, moi, je viens de parler de... Alors, on pourrait partir sur le plan théorique, sur la conscience, mais c'est un petit peu de ça. C'est vraiment de faire évoluer des points de vue, d'élargir la conscience. C'est vrai que c'est une expression qui est assez claire, que ce soit en sophrologie ou pas, mais voilà, de pouvoir accéder à des niveaux de points de vue différents, de voir les choses d'une autre façon. Alors, d'un point de vue phénoménologique, comme si c'était un objet à découvrir à chaque fois, alors ça c'est un petit peu trop théorique, mais de voir les choses autrement, de créer une distance avec l'objet d'étude au sens très large, et que ce soit un patient, que ce soit un événement, que ce soit une situation, et de pouvoir, dans chaque situation, d'être le plus conscient de tout ce que ça implique. Ça revient à être beaucoup plus souvent dans l'ici et maintenant. Alors, je sais bien que c'est une expression galvaudée, mais je crois que c'est vraiment pas rien, cette affaire-là. Et cette capacité à être le plus possible, selon les moments peut-être, les circonstances, ici et maintenant, et ça a été quand même une redécouverte ou une découverte formidable, y compris et d'abord par le corps. Et ça, c'est un changement de paradigme, comme on dit maintenant, mais de prendre les choses d'une autre façon. Et le fait est que mon corps, qu'en tant que corps, mon corps évolue et n'est jamais le même à chaque instant, d'un point de vue purement physiologique. Et ça, c'est des prises de conscience qui sont tout à fait intéressantes. Donc voilà, la sophrologie, c'est à la fois une méthode, c'est à la fois une philosophie, c'est un outil, alors c'est peut-être un peu trop réducteur, mais même un outil chez un ébéniste, il a un sens. Et ça peut être un outil, un morceau de bois ou un morceau de fer, la façon dont ça va être utilisé donne toute sa dimension, sa grandeur, sa noblesse à cet outil. Et la sophrologie est un outil très noble, ça c'est indiscutable.
Et du coup, comment est-ce que la sophrologie, comment est-ce qu'elle t'accompagne dans ta vie ?
Comment elle m'accompagne ? Alors, j'allais d'une façon non pas permanente, ce serait très prétentieux, fréquente, oui, mais plus aujourd'hui par un état d'être. Quand état d'être, ça ne veut pas dire au top niveau, hein, c'est un état d'être, plus que par un entraînement assidu, j'ose le dire. Je ne dis pas que l'entraînement ne sert à rien au bout d'un certain temps, ce serait là aussi très prétentieux. Mais je souhaite plus donner aujourd'hui un sens à la sophrologie pour moi dans mon quotidien, y compris quand je fais la vaisselle, y compris quand je cours, y compris quand je ne fais rien. Alors ça passe par un entraînement régulier néanmoins, mais pas si fréquent, moins fréquent qu'avant. Et puis, pour histoire de faire une pirouette, je me suis dit à un moment donné, cette absolue nécessité obligatoire, je ne sais pas comment dire ça, de l'entraînement quotidien, voire pluri-quotidien, m'a paru à un moment donné relativement suspect. Parce qu'à ce moment-là, si vraiment j'en ai besoin tous les jours, je ne vois pas à quoi ça sert, c'est que je ne peux pas m'en passer. Quoi, c'est un petit peu tordu comme réflexion, mais ben oui, quoi, quand même.
Ça a du sens.
En revanche, par la sophrologie, j'essaye de porter un regard sur moi, sur le monde, sur mes relations au monde, etc. Ça, oui, autant que faire se peut. Mais ça n'empêche pas de faire un petit peu, pour faire hurler des collègues, mais effectivement, de dire, ben voilà, je peux aussi me passer de mon entraînement sophrologique. Si vraiment il est absolument indispensable, je me dirais, ben, il y a quelque chose qui n'est jamais comblé, alors il y a quelque chose qui n'est jamais fini. Oui, sans doute, on n'a jamais fini de progresser, mais voilà. C'est une petite pirouette, ça m'arrange bien de penser ça.
C'est que quelque part, au final, le fruit de l'entraînement, c'est peut-être aussi que la sophrologie, en tous les cas, cet état d'être qu'elle induit, s'infuse naturellement dans notre quotidien, en fait.
Je pense que l'idéal est là. Tu reformules ça très bien. Je pense que c'est ça. Ouais. Et puis, en restant... alors ça aussi, c'est mon parcours personnel dont je parle, ça n'engage que moi, bien sûr. Je m'attendais peut-être à plus par rapport à une certaine époque ancienne où je pensais que ce soit la sophrologie ou la psychanalyse allait résoudre tous mes problèmes. Et là, j'ai une déconvenue majeure et je me suis rendu compte que non, c'était des moments où je me suis fait accompagner, où j'ai évolué moi-même, mais je reste aussi fêlé qu'avant, quoi. Mais j'en suis certainement plus conscient de toutes mes fêlures et je vis certainement beaucoup mieux avec. Tu vois un peu la nuance, quoi. Mais moi, c'était mes illusions du départ. J'ai tout réglé avec ça. On ne règle rien, on ne fait pas grand-chose. Oh, un peu quand même, il ne faut pas exagérer. Mais cette acceptation de notre humanité imparfaite par définition, moi, bah, par exemple, beaucoup... ça m'a beaucoup apporté, ça, par rapport aussi à un système d'éducation, un système de religion dans lequel j'ai versé beaucoup de part éducation et tout ça, où il y avait un souci de perfection, de sainteté. J'exagère un peu, mais dans la religion, c'est ça, notamment. Et en même temps, on recherche la sainteté, en même temps, on est toujours dans le péché. Enfin, il y a un truc qui ne va pas, de mon point de vue. Et donc, cette acceptation de non-humanité, qu'elle soit corporelle, y compris avec la vie et la mort, bien évidemment, mais aussi l'acceptation de mes limites, comme on le travaille en sophro, d'ailleurs. Tout ça, ça m'a bien convenu. Enfin, du moins, je me suis adapté peut-être à la sophrologie, ou c'est la sophrologie qui s'est adaptée à moi, je ne sais pas très bien, pour donner, c'est vrai, moi aussi, un peu plus de sens, ou un peu plus d'intérêt, ou de but à mon passage sur Terre. Et c'est clair ou ça ne...
C'est très clair, c'est très clair. Ça a beaucoup de sens.
Tant mieux. Tant mieux. Ça aussi, je voulais dire là-dessus, c'est cette... puis pour être trop long, tu vois, quand je démarre, cette fusion au sens de rencontre, je ne sais pas comment dire ça, et c'est toi qui a utilisé tout à l'heure ce mot, j'ai bien aimé, d'infuser, il y a quelque chose qui s'infuse. Qui s'imprègne, je pense, assez profondément, qui fait que, je ne dis pas qu'il n'y a plus besoin de s'entraîner, ce n'est pas ça, c'est comme moi qui fais de la course à pied, si je m'arrête de m'entraîner, je ne vais quand même pas aller très loin. Hein. Mais quand même, de garder quand même un rythme de pratique. Mais voilà, les choses se transforment peu à peu, et, alors jusqu'à quel point, à mon avis, pas tant que ça, mais peut-être un peu plus, un peu mieux, quoi. Une fois, on m'avait demandé est-ce que t'as changé depuis que tu fais de la sophrologie. Et j'avais répondu du tac au tac. Non, j'ai pas. Je suis toujours le même, mais un peu plus. et je me retrouve bien là-dedans.
Quoi. Et ouais, c'est ça. Et ce que j'aime bien tout à l'heure, c'est que tu, quand t'as dit je suis toujours aussi fêlée, mais au moins c'est conscient.
Ouais. Ah ouais.
Et je pense que c'est important. Ça, c'est qu'en fait, quelque part, oui, la sophrologie nous amène à être qui on est et en fait à embrasser toutes nos parts de lumière, mais aussi nos parts d'ombre. Et en prendre conscience, en fait, prendre conscience de toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas devenir quelqu'un de radicalement différent.
Non.
C'est, et ce n'est pas non plus... Pour moi, c'est pas non plus forcément devenir une meilleure version de soi-même, c'est juste devenir soi-même en fait.
Et oui. C'est pour ça que je dis ça du point de vue de mon parcours personnel.
Oui, mais tout à fait.
De mon histoire, etc. Et que chacun ensuite. Voilà.
C'est ça, chacun a sa propre expérience et chacun peut utiliser ses mots, ceux qui lui parlent, pour définir ce que ça lui fait.
Par définition, des situations infiniment différentes.
Et c'est ça, je trouve, tout l'intérêt aussi de pouvoir interroger différentes personnes, c'est que différentes personnes veut dire différents points de vue. Et tu l'as très bien dit au départ, c'est ça, la sophrologie, c'est aussi s'ouvrir à d'autres points de vue.
Absolument.
Et donc tu as mis en place donc, la sophrologie en lien avec ton métier de kiné et donc dans l'accompagnement aux sportifs.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la place du coup que peut prendre la sophrologie dans le domaine sportif ?
Vaste question. Réponse vaste aussi. Bah, c'est un accompagnement qui se justifie de plusieurs points de vue. Longtemps, par exemple, pour partir là-dessus, je me suis dit, la sophrologie ne fait pas partie de la préparation mentale parce qu'il y a une dimension corporelle en sophrologie. Et on ne peut pas réduire la sophrologie à une préparation mentale. Et je le pense complètement, tout à fait. Puis après, je me suis dit, sur un plan de communication, faire rentrer dans un certain discours la sophrologie comme une des techniques de préparation mentale, allons-y, pourquoi pas aussi. Puisque c'est souvent la demande quand même du sportif. Il nous identifie bien en tant que sophrologue comme faisant partie de cette aide mentale lorsque précisément il y a des difficultés à ce niveau-là. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même très, très large. Alors, pour rencontrer le monde du sport, il faut aussi répondre à une demande. Et c'est vrai que la première chose, comme dans tout domaine d'intervention, que ce soit la kiné, la sophro et autre chose, il y a une nécessité de ce qu'on appelle l'analyse de la demande, l'anamnèse, l'entretien semi-directif, qu'importe le terme, qui permet de cibler vraiment la demande du sportif. Et cette demande, elle n'est pas multiple. Enfin, elle est multiple. Si, mais enfin, les demandes concernent tout ce qui limite la performance d'un point de vue mental, qui n'est jamais que mental. Mais en tout cas, la demande est celle-là. C'est tout le stress de la compétition, tout le stress de l'entraînement. C'est les peurs. Ça revient un petit peu à ça aussi. Le terme de peur n'est pas un terme scientifique, c'est dommage, parce que je trouve qu'il est tellement parlant pour le sportif et puis pour le commun des mortels. Hein. Nous avons des peurs, mais qui sont tout à fait nécessaires et normal, et qui, à l'excès, effectivement, limite quand même la performance quand c'est ça qu'on cherche. Et donc, de lutter contre ces peurs, c'est une demande quand même assez, assez fréquente. Alors, la peur de gagner, la peur de perdre, la peur de ne plus être aimé, de soi-même, de son entraîneur, de sa famille, et pour d'autres encore, plus le niveau monte, des financiers, des sponsors, des journalistes, et du pays tout entier. Et donc là, il y a des peurs pour assumer des enjeux qui ne sont pas forcément les mêmes que les enjeux personnels du sportif au moment de sa carrière de sportif. Souvent, c'est le sport plaisir. On découvre ça tout jeune, parce qu'on a rencontré quelqu'un qui en faisait déjà, ou un prof d'éducation physique, ou etc. Et puis après, par un niveau qui peut monter, après, il y a des nouvelles nécessités, de nouveaux enjeux, de nouvelles obligations qui peuvent être très lourdes à porter, bien plus que l'entraînement. Quoi.
Et donc,
l'environnement professionnel, etc.
Et donc, du coup, l'accompagnement sophrologique, il ne concerne pas seulement les sportifs qui font de la compétition. Est-ce que ça...
Absolument.
Oui, ça concerne
absolument.
Aussi les...
Alors, bon, ça, tu fais bien de parler de ça. Dans une pratique courante, et puis pour moi aussi, y compris pour moi en tant que sportif, le sport, c'est la compétition. C'est ce qui la différencie de l'activité physique. Alors, okay. Et les demandes que nous avons, c'est par rapport à des compétitions. Alors, des compétitions qui ne sont pas forcément d'un enjeu classique d'être champion champion de départemental, champion national, c'est aussi des enjeux personnels, des compétitions personnelles. Okay. Comme quelqu'un qui va faire son premier marathon, ou quelqu'un qui va se mettre à... Oui, je ne sais plus trop à quoi, mais enfin, des, quelque chose de, qui génère du stress. Et ça, ça peut être à, pour tout sportif de tout niveau. Les choses seront assez différentes. Alors, il y a des spécificités du sportif de haut niveau, mais il y a aussi des facteurs communs de limitation de la performance qui sont trop de tension, pas assez. Et donc, tout ça, en sophrologie, on travaille, ça s'appelle la confiance, comment dire, la relaxation, la respiration, la gestion des émotions, bien évidemment, et la récupération, dont on ne parle pas assez souvent, je trouve, hein, là, la sophrologie fait merveille. Et alors, ça, c'est l'aspect, je dirais, mécanique de la sophrologie qu'on peut retrouver dans d'autres disciplines, hein, comme la préparation mentale en général. Et puis, tôt ou tard, dans notre spécificité de sophrologue, quand même, il y a cette notion qui est tout à fait importante, qui est celle des valeurs existentielles. Alors, on ne travaille pas ça tout de suite parce qu'on risque de perdre le client, ça va lui faire peur, sauf si vraiment ça fait écho tout de suite à une problématique ancienne. Hein. Mais effectivement, je suis complètement convaincu que en donnant du sens, en donnant de la valeur à une pratique sportive, quel que soit son niveau, ça peut paraître bizarre comme raccourci, mais on peut améliorer la performance, sans aucun doute. Puisque ces prises de conscience génèrent des facteurs d'harmonie qui vont se retrouver dans la pratique sportive. Alors, peut-être plus vers le plaisir, peut-être plus vers la performance, d'être plus capable, ça c'est le sportif qui a décidé, de sublimer, de passer au-delà d'une certaine douleur. Ce qu'un autre sportif dira, ou quelqu'un qui n'est pas sportif, ça n'a strictement aucun sens d'aller se faire mal de cette façon-là. Pour qui, pourquoi, hein. Mais c'est le sportif lui-même qui va donner du sens à ce qu'il est en train de faire. Et ça n'appartient pas au sophrologue. Ça, c'est là aussi à la fois une limite, mais une grande force, une grande richesse de notre discipline, que de pouvoir donner accès aux sportifs à tout ce champ-là, qui, encore une fois, n'est pas que pour une satisfaction personnelle, mais aussi qui peut déboucher pour quelqu'un dont c'est le projet, sur une amélioration de performance. C'est cette harmonie générale entre la pratique, l'entraînement, la compétition, les valeurs, qui peut, effectivement, s'additionner pour faire une meilleure performance. Et même s'il n'y a pas de meilleure performance, avec un vécu quand même peut-être plus harmonieux ou qui correspond davantage à la personne elle-même.
Et du coup,
ça ne s'aborde pas du premier coup, parce que là, ça fait un peu discours, un peu sermon quand même, ce que je viens de dire. Mais dans la pratique, inévitablement, sur un parcours, s'il peut être relativement long, le parcours sophrologique aboutit tôt ou tard à l'expression de ses valeurs. Ça, c'est clair. Sinon, c'est plus de la sophro.
Et est-ce que, du coup, l'approche sophrologique de l'accompagnement des sportifs, c'est la même pour des sports d'équipe ou des sports en individuel?
Alors, c'est la même et c'est différent. Parce que dans le sport, alors sur le plan individuel, l'individuel dans le collectif, il a besoin d'avoir les mêmes vertus, les mêmes forces, hein, pour performer. Après, se rajoute dans le sport collectif, ce qui est la première dimension du sport collectif, c'est-à-dire le collectif. Et là, on a d'autres techniques qui font intervenir, peut-être encore plus que dans le sport individuel, des visualisations, des imageries mentales, qui est quand même assez performante pour améliorer un certain nombre de choses. Alors là, on travaille aussi peut-être plus dans ces moments-là avec l'entraîneur, encore plus qu'en individuel. Je ne dis pas qu'on peut se passer de l'entraîneur, mais c'est un travail plus personnel. Mais dans le cadre d'un collectif, forcément, ça aura une influence sur l'équipe. Donc, et puis les entraîneurs eux-mêmes ont une certaine notion, une certaine connaissance, une certaine pratique de la préparation mentale, qui n'a pas la même signification que la préparation mentale de type sophrologique, mais Là, on a une collaboration, autant que faire se peut, tout à fait riche. Mais ce sera effectivement des exercices plus en groupe, sur des thèmes de stratégie, de tactique, des choses comme ça. Ou de cohésion, hein. On parle beaucoup de cohésion, et de faciliter les différents aspects de la cohésion dont on sait qu'ils vont avoir une fonction positive sur le résultat de l'équipe, ça c'est clair. Et ça fait partie aussi de notre domaine. Donc il y a à la fois les deux, mais c'est vrai qu'individuellement, dans une équipe, si déjà chacun est bien dans ses pompes, c'est le cas de dire, il se peut que le collectif en profite, c'est même très probable, mais c'est pas suffisant.
Et du coup, j'allais te demander donc en quoi consiste l'accompagnement de la préparation d'une compétition et le travail que tu fais en sophro. Mais tu as déjà répondu en partie concernant le travail sur la confiance en soi, sur la gestion du stress, sur la gestion des peurs et sur le travail des valeurs. Est-ce que tu vois d'autres choses sur lesquelles tu travailles?
Alors, il y a pas mal de... Enfin, il y a une chose que j'aime bien travailler, donc la récupération, une fois qu'on on en a parlé.
Oui, tu en as parlé
ça, c'est
aussi,
tout
ouais.
à fait essentiel. Il y a ce qu'on appelle... comment on pourrait dire? Ce qu'on appelle la régulation de l'activation. Alors, c'est des jolis mots, tout ça. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'activation, c'est de... Comment dirais-je? De contrôler son niveau... Alors, d'activation, d'activité, son dynamisme, on pourrait dire ça comme ça, à une situation donnée. C'est-à-dire que dans certains moments de la pratique de compétition, c'est vrai, mais aussi en cours de l'entraînement, parce que tout se travaille d'abord à l'entraînement, hein. Il peut y avoir une baisse de cette activation. Mais alors, je parle autant sur un plan physique que psychique. Hein. Et on a des techniques là pour essayer de soit d'augmenter son niveau, hein, et soit de le baisser un peu, de passer d'une surexcitation, parce qu'on vient de réussir à un joli point, par exemple, à quelque chose de plus stable, puisqu'on sait très bien que partir trop dans cette satisfaction peut détruire un certain équilibre en cours. Et puis inversement, lorsqu'il y a une baisse de l'activation, pour des tas de raisons, il se met à pleuvoir... d'avoir raté un point ou deux, là il faut partir de bon pied pour se rééquilibrer de nouveau. Ça c'est tout à fait, cette régulation elle est tout à fait importante. Ce qui va avec, en tout cas ça en fait partie, c'est également un autre sujet qui est ce qu'on appelle le dialogue intérieur, le dialogue interne, c'est-à-dire toutes ces pensées négatives qui peuvent assaillir le sportif dans des situations un petit peu difficiles. Hein, je suis pas bon, je suis qu'un nul. Voilà, on voit ça souvent au tennis, par exemple, hein, où il y a une espèce de d'énervement, de gestes, qui montrent bien, même au très haut niveau, hein, que les choses vont pas bien. Et donc de switcher, comme on dit, hein, de changer de registre, hein, et de passer d'un registre négatif à un registre positif, que ce soit au niveau cognitif, hein, c'est-à-dire au niveau des mots, des paroles. Mais également au niveau sensoriel, hein, c'est-à-dire de s'appuyer sur une sensorialité positive pour décrocher, hein, de tout ce qui est vécu comme négatif, en tout cas, et dont le sportif a conscience, pour pouvoir changer de point de vue. Et ça, c'est une décision, c'est une volonté. C'est un entraînement aussi. Si on n'est pas habitué à le faire, on ne le fait jamais, et nos techniques en sophro permettent... aussi de tout d'un coup, allez, je tourne le bouton, je passe à autre chose. Et de rebondir autant que faire se peut. Et cette capacité à changer se traduit toujours, et c'est un peu la force aussi en sophro, sur le plan physique et sur le plan mental. Ce n'est jamais séparé.
Du coup, ça permet de transitionner vers ma question suivante. C'est-à-dire que, en fait, quand on prépare un sportif, on le prépare généralement avec cette intention, en fait, de gagner ou d'améliorer sa performance.
Oui.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a mis autant d'attentes dans un résultat et qu'au final, on perd ou qu'on est en échec par rapport aux objectifs qu'on se serait fixés? Donc, la notion d'échec, comment est-ce que tu la travailles dans tes accompagnements?
Alors, elle a sa place, cette notion-là, Déjà dans le travail, des séances de sophro, puisque on n'est pas en sophrologie sur quelque chose d'utopique, sur quelque chose d'irréel. Or, pour paraphraser un, je ne sais plus qui, mais un entraîneur qui disait que le sport de compétition est une pratique de l'échec. Alors, c'est, vu comme ça, c'est un peu brutal. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout le temps gagner. Alors, il y en a quelques-uns qui gagnent tout le temps. Enfin, je veux dire, sur la masse des sportifs, ça fait quand même pas beaucoup. Hein. Et donc, on ne peut pas en rester là complètement. Et de toute façon, alors, même si on travaille ça, quand un sportif, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait comme préparation mentale, échoue, il fait la gueule. Excuse-moi ce terme-là, mais il est déçu, il n'est pas content, il peut être en colère, il peut pleurer, il peut taper du pied. Et peut-être qu'avec l'entraînement sophrologique, parce qu'il leur a posé l'éventualité de l'échec, il leur a préparé aussi l'éventualité et la possibilité surtout de rebondir. Et je pense que là aussi, il y a un switch le plus tôt possible qui permet de dire, voilà, bon, je suis déçu, je sais très bien où ça me fait mal au ventre, ça me donne mal à la tête, ça me donne des boutons. Mais je sais que j'ai les capacités à rebondir, parce que je le sais de moi-même, parce que mon entourage me le dit, même si c'est pour me faire plaisir, et que je vais, dès que possible, non pas ignorer tous les effets négatifs, les laisser là où ils sont, et de passer à autre chose, et notamment en travaillant en amont, bien sûr, toutes les vertus de l'échec. Et elles sont très nombreuses. Alors, c'est comme la blessure, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais c'est un peu la même chose. Et comment rebondir sur tous ces affres de l'échec, quoi, qui sont complètement inhérents, il faut l'accepter. Alors, il y en a qui l'acceptent plus ou moins, mais ça fait partie intégrante de la pratique sportive, elle mérite d'être travaillée. Alors, ce n'est pas pour ça que le sportif va rigoler après un échec. Il ne va pas rigoler du tout, même. Et c'est plutôt, même plutôt bien. Mais c'est surtout d'avoir la possibilité d'envisager, y compris en séance de sophro, la possibilité de se tromper, de faire erreur et de pouvoir corriger. Et y compris de pouvoir corriger en cours même de compétition.
C'est de développer en fait sa résilience, mais pas non plus au point où on est tellement résilient que bon, bah, on a perdu, on s'en fout, on repart comme si c'était rien passé.
C'est ça, tout à fait.
C'est trouver un équilibre.
Ouais. Alors, effectivement, c'est une façon momentanée d'évacuer le sujet. De toute façon, ça n'a pas d'importance. De toute façon, on m'en fout. Et je me souviens d'interviews comme ça de grandes sportives, de grands sportifs. Je pense à une skieuse en particulier qui venait d'échouer alors qu'elle était favorite dans une épreuve de ski. Ouais, ça, je me souviens très bien. Et qui se consolait en disant, mais de toute façon, je sais qu'on m'aime, moi j'aime tout le monde, j'embrasse ma famille, machin. Ce qui est une réaction positive déjà, mais qui effectivement n'est pas suffisante. Mais ça permet aussi de relativiser les choses, hein, de prendre de la distance par rapport à ce que c'est qu'un échec. Mais pour avoir rencontré beaucoup de sportifs et certains de très haut niveau, c'est des choses qui font très mal. Et donc, l'image de soi en prend un sacré coup. Donc, voire l'identité même, hein, pour ceux qui ne fondent leur vie que là-dessus, l'échec, effectivement, peut être très destructeur, hein, et générateur de après-carrière, parfois de dépression et tout ça. Et c'est pour ça que le travail sophro est quand même très, très vaste, hein, très complet, pour préparer à ces aléas qui sont, encore une fois, obligatoires dans une pratique sportive, que ce soit à un niveau départemental, régional, national, international. Les mécanismes sont exactement les mêmes, les enjeux sont un peu différents quand même.
Et du coup, ta relation, toi, avec tes clients, est-ce qu'elle est différente de celle d'un entraîneur ou d'un coach ?
On a une place spécifique. À tout point de vue, On a des domaines, qui se recoupent un petit peu, hein, qui fait qu'on peut partager, dans l'idéal, avec l'entraîneur, avec même le corps médical, par rapport à telle problématique d'un athlète. Je crois que surtout, ce qui définit fortement notre intervention, c'est ce qu'on appelle en sophrologie un truc fantastique qui s'appelle l'alliance. Et c'est cette alliance que nous mettons en place, je dis bien le « nous », parce que c'est et le sportif et le sophrologue, permet une confiance, permet une confidentialité, permet une bulle hein, où le sportif a la liberté totale de s'exprimer. Et c'est peut-être pas toujours. Alors, avec le médecin, théoriquement, si, avec l'entraîneur, c'est certainement plus difficile pour des tas de raisons évidentes, hein, de ne pas se montrer en état de faiblesse. Par exemple, vis-à-vis de l'entraîneur qui, selon sa nature, effectivement, son caractère, peut ne pas très bien supporter les plaintes hein, du sportif. Et le lieu de rencontre, la rencontre avec le sophrologue, le lieu de la rencontre, ce colloque singulier, comme on dit dans d'autres domaines, est absolument essentiel et fait notre spécificité. Tout peut être dit. Et tout ne... Enfin, c'est la liberté totale, comme on peut ne rien avoir à dire. Il y a une liberté quand même qui est très, à la fois très rassurante, très riche, très dynamique. Enfin, qui peut l'être, en tout cas.
Et du coup, tu parlais tout à l'heure, quand j'ai parlé de la notion d'échec, tu
Oui.
parlais aussi des blessures.
Oui.
Et effectivement, ça peut être des périodes aussi extrêmement difficiles pour des
Absolument.
sportifs.
Oui.
Pareil, du coup, j'imagine que l'accompagnement en sophrologie doit être
Oui.
libérateur pour permettre de développer des, comment
Oui.
dire, d'accueillir ce qui est négatif dans le moment
Tout à
et de
fait.
l'accepter et de
Oui.
développer, mais de développer quand même de la positivité dans ce moment.
Très rapidement, si possible. Mais de vivre, comme tu viens de le dire, et comme dit avant déjà, mais de vivre aussi quelque part pleinement cet échec. Tu vois, c'est un peu fort peut-être ce que je viens de dire, parce que dans ces moments-là, il n'y a pas de place pour grand-chose d'autre, quoi. Hein. Mais même si dans l'idéal que cette période particulièrement difficile soit la plus courte, mais pas forcément évacuée, quoi. En tout cas dans le domaine sportif, hein, parce qu'il y a d'autres domaines de la vie qui sont beaucoup plus dramatiques qu'un échec sportif, quoi. Et donc de pouvoir relativiser, de changer de point de vue. Et ça, la période de la blessure est... Alors, pour ma part, j'ai jamais accompagné dès le départ un sportif blessé en sophro, en kiné, oui. Alors, les deux peuvent s'associer, hein, sans aucun doute. Mais de pouvoir aider le sportif à le récupérer comme lui a récupéré, ça me paraît une tâche tout à fait essentielle. Et là, encore une fois, quand je dis ça, ce ne sont pas que des mots. C'est-à-dire qu'il y a un début de réparation psychique, c'est clair, mais physiologique avec. L'un ne va pas sans l'autre. Et ça me paraît très fort en sophro. C'est pas pour ça que quelqu'un qui s'est cassé une jambe, il va recourir le lendemain. Bon, bien sûr que non. Mais déjà, le projeter à partir d'établissement d'un certain nombre d'objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, de mettre un cadre et de l'envisager, ce cadre, en situation, que ce soit l'opération, que ce soit la sortie de l'hôpital, que ce soit le retour chez soi, les exercices, la rééducation à la maison, au cabinet, la reprise sur le terrain de l'entraînement, d'aller voir les potes s'entraîner, etc., 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 jusqu'à la reprise autonome de l'entraînement, il y a mille choses en imagerie mentale, par exemple, à mettre en place le plus tôt possible, quand les choses difficiles ont été un peu digérées, quoi. Évidemment pas dans la seconde, hein, mais sans aucun doute. Et facilite la réparation. J'en suis complètement persuadé.
Et du
J'ai
coup,
un souvenir comme ça, tout à fait particulier, alors c'était en stage, comme ça, c'était un stage de sophro et sport que j'animais à Lille. Et il y avait une stagiaire qui vient me voir à la fin et il me dit, voilà, j'ai un sportif là, qui vient de se faire opérer du genou, on bute à 90 degrés, enfin qu'importe. Et qu'est-ce que je pourrais faire en sophro pour l'aider à s'améliorer, quoi. On parle technique, puis je disais de ramener son genou dans la globalité de l'individu. Et de lui faire des techniques, pas de genoux, mais des techniques de la personne, hein, donc avec tout ce qu'on sait faire en sophrologie. Et je la revois au bout de 3 jours, la fin du stage, je me dis, mais je ne sais pas comment ça se fait, le patient a gagné 15 degrés. Alors, c'est rien de magique là-dedans, rien du tout. Mais sans doute que le travail sophro a permis de se réassocier à ce que le sportif vivait au niveau de son genou, mais au niveau de sa personne, quoi. Il a réintégré ce genou enfin, de mon point de vue, c'est mon explication. Hein. Ça s'est réharmonisé, ce qui n'empêche que le genou restait toujours blessé, opéré, avec ses insuffisances, avec ses... Mais il avait été réaccepté, rassemblé, il s'était remis dans la globalité de la corporalité. Et je suis sûr qu'il y a des phénomènes là, qui sont, de mon point de vue au niveau cérébral, tout à fait clairs, qui tout s'est recalé, si on peut dire ça comme ça. Et cette fonction globale de la sophrologie qui me paraît très puissante, sans aucun doute. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question d'ailleurs. Mais
si,
bon.
Si, non, mais je trouve intéressant que tu parles de ça, de replacer à chaque fois la sophrologie dans la globalité de la personne.
Ouais.
Parce qu'on a tendance aujourd'hui à vouloir un peu des remèdes miracles pour tout
et
d'aller vraiment dans la spécificité et en ciblant le problème pour lequel la personne vient. Et pour autant, ce n'est pas la solution. La solution, effectivement, c'est que comme on est un être global, c'est en travaillant sur cette globalité que ce problème spécifique va peut-être s'atténuer ou se résoudre de lui-même et d'autres choses en même temps qui en découlent.
Absolument. Je crois que c'est absolument essentiel, cette vue générale sur la personne permise, ce point de vue général que nécessite la sophrologie est très puissant et donne une puissance à la méthode. Alors, ce n'est pas la seule, hein, mais je trouve qu'en l'occurrence, c'est quand même une fonction tout à fait intéressante. Et je reprends un exemple, puis je vais arrêter là-dessus, mais c'était à l'époque où je travaillais avec la Fédération française d'athlétisme, et j'étais présent au championnat du monde d'athlétisme à Paris en 2003. Et puis, j'étais de service là, au marathon, à la fin de l'épreuve. Et donc, au service médical, où j'étais avec les copains et tout ça. Et puis, arrive une athlète qui chancelait, quoi, qui n'était pas bien. Et on avait quelques lits, je ne sais pas comment on appelait ça, des lits. Mais enfin, et puis elle s'allonge. Et puis, le collègue médecin fait son job pour voir, il n'y avait rien de particulier. Et puis, il dit, si tu peux la masser ou tout ça. Et puis elle avait les muscles un petit peu douloureux, tout ça. Je me suis dit, allez, je ne fais pas ça. Je lui fais une lecture du corps, je lui fais de la sophro. Donc je ne l'ai pas touché, je lui ai demandé de fermer ses yeux. Et elle est repartie, elle s'est remise debout. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien, Et alors elle ajoute une chose tout à fait assez amusante quand même. C'était une athlète marocaine qui était résidente en France, du côté de Montpellier. Et elle me dit, c'est amusant parce que je fais de la sophro à Montpellier. C'est marrant, quoi.
Excellent.
Bon, il y a des petits clins d'œil, je pense qu'il y a du mystère là-dedans, ou je ne sais pas quoi, ou des liens. Bref, mais plutôt que d'aller fort avec mes mains ou masser, une simple récupération de la globalité de l'individu. Elle était là, elle s'est remise en ordre. Voilà, elle a remis de l'ordre dans qui elle était après cette compétition qui est très dure et qui parfois entraîne une forme d'éclatement. Au niveau corporel, au niveau musculaire, mais également au niveau cognitif, au niveau psychique, et de faire de rassembler tout ça dans un contexte favorable. Hein. Il y avait pas de bruit, il y avait tout ce qui fait la force de nos séances était là, et puis en plus ça a pris d'autant plus qu'elle en avait déjà un peu l'expérience. Quoi. Et sans rien faire de miraculeux, hein. Vraiment des trucs que tout le monde apprend en école de sophro. Quoi.
Et du coup, donc, on arrive sur les dernières questions avant la petite pratique. Est-ce que tu as des livres que tu recommanderais sur la sophrologie en général ou sur la thématique justement de l'accompagnement du sportif à travers la sophro ou des livres qui n'ont rien à voir avec la sophro mais qui t'accompagnent ou qui t'ont accompagné dans l'exercice de ton métier?
Tout à fait. Alors, sur le plan sophro, je ne lis plus rien. C'est pas parce que ça vaut rien, c'est pas ça du tout. C'est qu'effectivement, notre discipline étant vraiment une pratique, je pense que les bouquins ont quand même leurs limites, les bouquins de sophro. Néanmoins, j'ai toujours sous la main un certain nombre de livres, que ce soit ceux édités par, sous l'autorité de Richard Esposito, bien sûr, tous ceux de Chénet, tous ceux de Lussouarn, il m'en manque un, je voulais dire, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, il y en a plein, quoi. Il y en a plein et qui sont tout à fait... comment il s'appelle Oh, je l'ai plus sous le, je l'ai perdu. Enfin voilà. Et ça, des gens connus, des gens bien repérés dans le milieu sophrologique, Luc Audouin, et puis d'autres que je ne connais pas. Non, là, il y a des gens, des livres qui sont tout à fait intéressants et qui donnent une variété des pratiques. Mais ça reste toujours de la pratique et il n'y a pas grand-chose de neuf sous le soleil quand même. Point de vue sportif, histoire de me contredire, j'ai lu récemment le numéro spécial Sophro et Sport de la revue Sophrologie par mon collègue et confrère, doublement confrère kiné et sophrologue, je crois, belge, Éric Médard ou Médaerts, je ne sais plus comment on dit, et qui a fait un spécial sport remarquable. Vraiment très très bien. Il est sorti déjà depuis un an ou deux, je ne sais pas si
Oui,
tu
je
l'as
l'avais vu
vu.
passer.
Et il est vraiment très bien fait, très pratique, très clair, très complet. Ça mériterait même d'en faire un bouquin, parce qu'il est vraiment très très bien. Et on doit pouvoir le trouver encore en le commandant. Voilà, sur plan sport, Sophro, il y a des livres de Luis Fernandez, mais ils sont plus édités pour la plupart. Il y a ceux d'Edith Perrot-Pierre, qui est une femme médecin militaire, anciennement, moins maintenant, je crois, mais qui fait beaucoup de formations, de conférences, qui a écrit deux livres, l'un sur la sophrologie et un autre sur la préparation mentale, qui rejoignent ce qu'on fait à l'ISR et dans les écoles de la FEPS et ailleurs, d'ailleurs. Donc c'est tout à fait abordable, mais plus pour les sophrologues. Et puis surtout, il y a tous les livres, et là j'ai été plus enrichi de ces livres-là, sur la compréhension de l'humain. Alors c'est tous azimuts, hein. C'est de la sociologie, c'est de l'anthropologie, c'est de la psychologie, c'est de la philosophie, c'est de la psychanalyse, et tous ces bouquins sont très éclairants, sur des points de vue différents. Alors, difficile d'en donner quelques-uns, mais également, par exemple, tous les bouquins, ça m'aurait intéressé, mais j'ai découvert ça un peu trop tard. Les bouquins de neurosciences, hein, c'est passionnant de découvrir comment ça marche, parce que ça nous concerne directement. Hein, c'est le fonctionnement du cerveau, c'est quand même important de savoir pour nous, sophrologues, puisqu'on travaille par le corps et le cerveau fait partie du corps. Voilà. Tous les bouquins de. J'aime bien lire David Le Breton, qui est un anthropologue très intéressant. Là, je suis en train de regarder mes bouquins. Ah oui, David Le Breton, ça c'était un bouquin, une révélation, hein, Anthropologie du corps et modernité, ça s'appelle.
Ok.
David Le Breton, ça c'est remarquable. Et pour un sophrologue, ça se lit vraiment très très bien. Là, je tombe sur mon époque Jung. Carl Gustav Jung. Alors là, c'est une source inépuisable aussi. Je vois aussi les bouquins de Damasio, Antonio Damasio. C'est vraiment très très intéressant. L'autre moi-même, en voilà un titre. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je vois d'autre? Mais là, je tombe sur le bouquin. Alors, c'est un psychanalyste, mais pas que, écrivain, Pontalis. Extraordinaire, Pontalis. Mais qui renseigne, voilà, sur qui nous sommes. Voilà, sur qui nous sommes. Et je trouve que c'est des éclairages très intéressants quand nous recevons quelqu'un en cabinet. Voilà, qui est cet homme, quoi, en tant qu'homme? Alors, bien sûr, il a son histoire, sa particularité, son individualité, mais il fait partie de la nature humaine. Et c'est toujours intéressant voilà, je suis plus là-dedans maintenant. Mais ça peut aller aussi jusqu'à, je disais, la philosophie, mais jusqu'à la poésie aussi. Les poètes parlent de l'homme d'une façon remarquable et extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on les met en taule dans les dictatures en premier, quoi. Les écrivains, en général, sont trop dangereux, ces gens-là. Avec cette notion de liberté, hein, d'imaginaire, c'est très intéressant. Quoi d'autre? Alors là, j'avais acheté ça à l'époque de ma formation, Phénoménologie de la perception. Je disais le titre par Merleau-Ponty. Alors c'est quand même pas coton, quoi. C'est quand même pas facile à lire. Mais de temps en temps, d'en lire quelques pages, c'est quand même intéressant. Voilà, certainement d'autres choses.
Ça fait déjà un
J'avais
bon,
déjà pas
un
mal.
bon
Hein.
panel.
Ouais. Ah oui, il y a de quoi s'occuper tant qu'on veut s'intéresser à l'être humain, quoi.
Bah, c'est ça, il y a pas
Ah,
mal
une
de
chose que je n'ai pas
ressources.
évoquée, c'est marrant parce que en réfléchissant à ton interview, je le dis quand même parce que ça a été très marquant pour moi. Et ça rejoint un petit peu les bouquins dont je viens de parler. C'est comment la sophrologie m'a permis de renouer, de me relier avec ma part d'animalité. Et c'est vrai que notre système d'éducation, enfin le mien, celui que j'ai reçu, mais aussi d'une façon générale, la suprématie totale de l'esprit sur le corps un peu dégueulasse quand même. Et donc, de replacer, de redécouvrir cette part d'animalité chez moi m'a fait énormément de bien. Énormément de bien, m'a rééquilibré, m'a réassocié, voilà, de cette idée-là aussi de globalité. Et cette capacité de pouvoir travailler cela en sophrologie, moi, me plaît beaucoup. Me plaît beaucoup. Et ce n'est pas pour nier, bien entendu, la capacité de l'esprit à modifier le fonctionnement du corps, évidemment pas. Mais je crois que l'inverse est au moins égal. C'est-à-dire comment, à partir de notre être biologique, qui est bien supérieur à notre pensée, enfin, je veux dire, la preuve en est qu'on. Enfin bon, sauf preuve du contraire, une fois que nous mourons, le corps, il ne vit plus, l'esprit, alors bon, sauf si on croit, hein, à l'immortalité de l'âme. Bon, tout s'arrête un peu quand même, un peu beaucoup, probablement. Enfin bon, c'est ma conviction aujourd'hui. Mais cette matière, dont nous sommes faits, cette chair. Hein, Bernard Santerne parlait même parfois de la viande, tu vois, notre viande. Alors c'est presque un peu trivial de parler comme ça de l'être humain, mais nous sommes d'abord cela. Et j'en suis complètement convaincu. Il n'y a qu'à voir les réactions dans cette période de Covid, quoi, on reprend nos instincts, mais pas que, hein, nos instincts animaux assez primaires, quoi. On peut y être confronté, en tout cas. Mais effectivement,
Complètement.
l'esprit, tel qu'il est devenu par l'évolution, peut gérer les choses d'une façon tout à fait remarquable aussi, quoi. Voilà, c'est pas
Complètement.
plus l'un que l'autre, c'est cette unité
Cette même
obligatoire qu'on est obligé de se coltiner et développer, qui me paraît très intéressant en sophro.
Le rôle du mental et enfin de l'esprit et du corps est exactement le même et les deux ont la même place en
Voilà,
fait à occuper
complètement,
dans
complètement.
notre globalité, ouais.
Et je relisais quelque chose de très fort en sophro d'Alfonso Caicedo lui-même. Hein, la sophrologie n'admet pas de séparation entre le corps et l'esprit. Et ça me paraît aujourd'hui dans ce que je vis de la sophrologie, ça me paraît complètement clair. Mais ça l'a pas
Complètement,
toujours été. Hein.
ouais.
Mais aujourd'hui, non, non, ça, je suis complètement d'accord. Les mots sont là pour symboliser une réalité difficile à comment faire autrement que de l'écrire, que de le dire. Hein.
Et
Néanmoins,
je trouve que les mots
oui.
prennent davantage de sens quand on a déjà
Ouais.
expérimenté dans le corps ce qu'ils veulent dire.
Oui.
Et c'est vrai
Certainement.
que on peut lire la même chose, cette phrase-là, on peut la lire sans jamais se poser la question de ce qui se passait dans notre corps, et du coup la lire et ça veut rien dire, et après la lire quelques années plus tard en ayant fait tout un travail sur le corps, et là effectivement on comprend vraiment parce que c'est inscrit en nous, quoi.
Tout à fait. Et c'est ce qui fait aussi son caractère dramatique. Hein, je veux dire, la maladie, la blessure, la déchéance, le naufrage, hein, selon comment on peut appeler ça, c'est pas facile à vivre. Hein, c'est pas pour ça qu'on va rigoler avec ça. Mais il y a cette part de nous, ou cette totalité de nous en tant que corps, quoi, et jusqu'au bout, qui s'appelle la mort. Et c'est un thème qui est peu abordé, d'ailleurs, peut-être que par ce que je dis, mais le thème de la mort en sophro, mais qui dit mort dit vivant, forcément au préalable. C'est quand même très intéressant de s'occuper de sa mort, de son vivant.
Et aujourd'hui, tu ne donnes plus que des formations à
Oui.
l'ISR?
Oui.
Ouais,
Alors,
c'est...
oui, principalement mon activité en tant que sophrologue et de formateur, c'est à l'Institut de sophrologie de Rennes,
Ouais.
toujours. Et puis, depuis que je suis en retraite et depuis que j'ai rejoint ma femme à Rennes, sur Rennes, j'avais le rêve un peu de développer une petite activité de préparation mentale auprès des sportifs. Et puis, j'ai réussi à ne pas y arriver. Et donc, donc j'ai des appels de temps en temps, une petite activité que je ne refuse pas, parce que j'y prends vraiment un grand plaisir à accompagner de temps en temps, et pas beaucoup d'ailleurs, des sportifs qui sont en demande et qui ont découvert ma présence, soit par l'Institut, soit par mon site, Internet. Et voilà.
Donc, tu es
Donc, quoi.
disponible pour faire des
Oui.
pratiques à des sportifs qui seraient intéressés.
Absolument,
Ok.
absolument, absolument. Mais c'est vrai que j'ai pas une communication très efficace. Sans doute que je ne le recherche pas. Soyons clairs. Faut être honnête. Je profite, c'est vrai, de ma retraite. Et j'en suis bien heureux. Et néanmoins, de garder étant encore plutôt en forme, de garder une activité 100% plaisir, désormais sans enjeu particulier. C'est quand même un luxe formidable. Et donc, de temps à autre, voilà, quand ça se présente, j'accueille bien volontiers des demandes d'accompagnement, mais uniquement auprès des sportifs.
Merci à Dominique et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il aura enrichi votre compréhension de la sophrologie et de vous-même aussi peut-être un peu. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour la pratique de Dominique qui portera sur la confiance en soi. Pour le sportif, bien sûr, mais pas que. D'ici là, vous pouvez me rejoindre sur le compte Instagram @laposofro-8podcast ou me laisser un commentaire et une note sur l'application Apple Podcast. Cela permettra à d'autres personnes qui en ont besoin de le découvrir et cela m'aidera aussi à faire découvrir la richesse de la sophrologie. Je vous dis merci et à bientôt pour le prochain épisode.